Alors, moi, je vais inviter très vite à relever le rideau. C'est indispensable pour qu'on puisse... Oui, je sais. Oui, oui, bien sûr.
Le technicien. De réintroduire le saumon sur l'axe Loire-Allier. Il y a des efforts importants qui ont été faits avec la construction de la saumoniculture, avec aussi, au niveau des élus, une évolution de l'état d'esprit, notamment dans le cadre de la réhabilitation des réseaux d'assainissement. On a de nombreuses communes qui sont à côté de la rivière, et c'est vrai qu'avec les aides qui ne sont pas forcément encore assez importantes à mon goût, c'est pour ça que je suis intervenu avant au ministère d'écologie pour avoir des aides plus importantes, en tout cas, les collectivités, que ce soit Brioude, que ce soit Langeac, ont réhabilité leur réseau d'eau d'assainissement pour améliorer la qualité de l'eau et puis renforcer l'habitat. J'ai cru comprendre dans le prochain plan, aujourd'hui on est à 800 saumons qui remontent. On est au milieu du gué. Si cette action n'avait pas été menée depuis 20 ans, posons-nous la question, combien de saumons seraient présents sur la rivière Allier? On est au milieu du gué. Je crois que le prochain plan doit être ambitieux, et encore plus ambitieux de ce qui est prévu, pour arriver dans 5 ou 10 ans, et j'annonce des chiffres, à 1600 saumons. Si on n'est pas dans cette stratégie-là, si on n'est pas dans cette logique-là, non seulement tous les efforts qui ont été faits depuis 20 ans seront anéantis, et puis on ne parlera plus de saumons sur la rivière Allier. Je crois vraiment qu'il faut qu'on aille au bout de notre engagement. Et moi, je lance un appel. Pourquoi ne pas avoir le saumon sur l'axe Loire-Allier une priorité nationale et qu'on puisse tous ensemble, d'une façon collective, continuer à transformer, transformer l'essai. Parce que si on arrête là, je dis clairement, on voit le résultat. Hein, on aura une chute et on aura une disparition des saumons. Ce qui a été fait, c'est remarquable. Il faut continuer à le faire pour doubler le nombre de saumons. Je pars à peine dans le temps. Lorsqu'on prenait des saumons sur la rivière Allier, bien sûr, c'était 7 000 à 8 000 francs par saumon qui étaient laissés dans les hôtels-restaurants du secteur. C'était toute une activité économique qui était mise en place. Chez nous, le saumon, c'est dans nos gènes, c'est dans nos sangs, c'est dans nos tripes. Alors, je ne veux pas rentrer sur l'aspect technique parce que je pense que ça a été abordé, mais l'aspect stratégie pour maintenir ou avoir un nombre plus important de saumons, ça fait prendre aux populations locales d'améliorer la qualité de l'eau. Ça permet, comme ça a été dit, de conserver l'habitat et de l'améliorer. Et puis ça permet de faire évoluer les mentalités des gens, y compris localement. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a des saumons dans la rivière Allier, des gens du secteur qui ne savent pas ce que c'est qu'un saumon. Ça permet de sensibiliser les gens et les faire évoluer dans ce sens-là. Donc je crois que ça serait une erreur, et je le dis clairement et fortement, et c'est ce que je défendrai au niveau national, transformons l'essai et poursuivant le programme qui a été mené pour obtenir, dans une dizaine d'années, 1600 saumons. Et là, on aura des vrais résultats. Et là, l'action depuis 20 ans sera concrétisée. Si ce n'est pas ça, ça sera une marche arrière grave pour l'espèce, pour le saumon et pour le territoire. Voilà ce que je souhaitais dire parce que c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe et qui nous tient à cœur. Voilà. Je vois Guy Vista qui est là, qui est président du SMAT. C'est grâce un petit peu à lui et puis à l'ensemble des partenaires, bien sûr. Je salue aussi les pêcheurs parce que les pêcheurs ont joué aussi un rôle important au départ dans le cadre de cette mobilisation et dans le cadre de l'évolution positive du saumon. Voilà.
Pardon. Alors, je vous entends bien. Au fond, vous êtes prêt à prendre des maîtrises d'ouvrage pour effectivement répondre aux aspects, aux problèmes que soulevait à l'instant Patrick, c'est-à-dire effectivement tous les problèmes de qualité d'eau, parce qu'on voit que l'exigence, entre autres, par rapport aux habitats, par rapport à la qualité de l'eau, restons sur le fond, ne parlons pas que uniquement le fonctionnement de la salmoniculture, c'est secondaire. Enfin, secondaire, ça ne l'est pas tant que ça, mais je veux dire, c'est pas la priorité. La priorité, c'est les habitats.
Bien sûr, mais pourquoi on a pu améliorer les habitats et la qualité de l'eau? C'est grâce aussi à cette démarche qui a été lancée depuis 20 ans. Les agriculteurs, les entreprises, les collectivités, on en parle une fois, on en parle deux fois, on en parle trois fois, on montre l'intérêt. Et grâce à cette action qui a été menée depuis 20 ans, c'est tout l'habitat, c'est toute la qualité de l'eau qui a été améliorée, et surtout c'est une prise de conscience locale. Et quand je dis grande cause nationale, il y a un énorme travail qui a été fait en amont, et je crois vraiment, c'est simple, comme ça a été très bien dit, où on veut du saumon sur l'axe Loire-Allier. Et on fixe un curseur d'excellence. Et on regarde de l'embouchure jusqu'à chez nous, tous les critères qui posent problème. Ou on y répond et on a du saumon, ou on y répond une fois sur deux et on n'a pas le résultat escompté. Voilà, c'est pour ça que je dis grande cause nationale, parce qu'il faut vraiment que sur l'ensemble du territoire, on défende ce saumon de la rivière Allier. Voilà. C'est toute une image, c'est une activité économique aussi importante.
Merci. On va peut-être essayer d'avoir d'autres avis, hein, forcément, puisque la société civile est assez bien représentée sur cette première table, avec des associations, des représentants de collectivités, bien sûr. Si je reste dans le champ des collectivités, alors le vice-président de l'association de préfiguration, pardon, du parc naturel régional, le saumon est forcément un phare, à la limite, hein, pour ce futur parc. C'est un élément, une composante importante. Alors, quel est votre sentiment, vous, personnellement? Qu'est-ce qu'il faut améliorer en termes de gouvernance? Qu'est-ce qui peut être moteur pour ce futur plan?
Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Lionel Roucan, je ne sais pas si tout le monde me connaît ici. Je préside l'association de préfiguration du parc des sources et gorges du Haut-Allier.
Et plus près? Très bien.
Bouger. Bon. Donc, voilà. Et c'est fait. Et donc, aujourd'hui, je ne parle pas pour le conseil régional, mon collègue Bouchardy pourra le faire à loisir. Mais par contre, quand vous créez un parc, ou quand vous essayez de créer un parc, c'est en tous les cas l'émanation d'un territoire. Et cette émanation-là, elle se traduit directement par une charte. La charte, elle aura vocation à vivre une douzaine d'années, et c'est l'ambition du territoire. Et dans cette construction de charte, on a choisi d'avoir une gouvernance de notre association, Guy Vissac en est vice-président, très participative. Aujourd'hui, on est à plus de 350 réunions, je crois, sur le territoire, et on a croisé et on a interpellé plus de 4000 personnes. Ça ne s'est jamais fait sur ce territoire. Et là-dessus, pour en revenir au problème qui nous touche aujourd'hui, on a eu l'avis de la population. On a eu l'avis des corps constitués, des associations de pêcheurs, etc., de la salmoniculture, tout le monde, les élus. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'écrire l'ambition du territoire dans la charte, en disant, il faut réouvrir la pêche au saumon. C'est pas pour la réouvrir. C'est pas simplement pour dire, on pourra attraper des saumons. C'est pour répondre à la question que nous posent souvent les gens. C'est, ok, on a mis une salmoniculture en place, on a mis sur les rivières à saumon, et on n'en voit pas. On n'en voit pas, et pourquoi? Alors, ça sert à quoi? Tout cet argent-là.
Est-ce qu'on pourra en voir un jour? Un jour, je veux dire.
Donc, l'ambition, c'est d'en voir.
Le saumon, ça ne se voit pas en théorie, sauf quand il saute.
Non, mais c'est pas un animal discret. Et c'est un animal, justement, qui peut peupler les rivières et qui peut être attrapé dans certaines conditions et sous certaines conditions. Et c'est ça qui nous intéresse en termes d'ambition. C'est-à-dire que pour déclencher ce mouvement-là, il nous faut tout un système aujourd'hui d'évaluation, de continuité et de travail. Et vous parliez des maîtrises d'ouvrage, et là le parc est bien placé pour travailler et sur les habitats, il sera bien placé, j'espère bien, pour travailler sur les habitats, sur aussi la gestion du repeuplement. Parce que dans les parcs, vous avez un droit à l'expérimentation. C'est un des piliers fondamentaux des parcs naturels régionaux, où on peut, par expérimentation, se lancer justement dans des programmes difficiles, de maîtrise d'ouvrage, compliqué des fois, mais toujours en concertation avec la population et toujours sous le couvert de notre syndicat mixte. Ce qui fait qu'on a une gestion et une gouvernance qui est tout à fait particulière. Là-dedans, si l'on réclame la maîtrise d'ouvrage, je pense que la charte indiquera la possibilité, et ce n'est que le syndicat mixte qui prendra cette décision-là, quand il sera créé, de se lancer dans la maîtrise d'ouvrage, aux côtés des acteurs du territoire, évidemment, pas tout seul et pas comme ça, avec tout le monde, l'État, les régions, les départements, les collectivités signataires de la charte. C'est ça aussi qui traduit l'engagement dans une charte. C'est l'engagement financier, mais aussi d'ingénierie et de soutien de nos partenaires. On aura besoin de tout ça, et là-dessus, il faudra y travailler, justement à cette espèce d'étoile lointaine qui est de pouvoir attraper du saumon pour en voir, mais en tous les cas d'arriver à des chiffres de repeuplement dont parlait Jean-Pierre Vigier. Ça passe par une action clair. Et il faut justement qu'aujourd'hui, les plans type PAGE et POMI se rapprochent de cette ambition-là du territoire. l'eau du parc, ça se comportera. Ensuite, il se fera ce qui se fera, et on s'adaptera. Mais en tous les cas, la volonté y est.
Alors, vous évoquez la réouverture de la pêche. Est-ce qu'au fond, on peut porter dans une charte un tel projet aujourd'hui, en l'état actuel des choses? C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas condamné d'avance, au fond, le projet? C'est-à-dire, est-ce que dans le cadre, dans une situation pareille, est-ce que c'est pas rédhibitoire sur le plan du ministère, ou est-ce qu'un parc avec une population au niveau où elle est peut être porteur d'un tel projet?
Non, pas population humaine, hein, population de saumon, bien sûr. Ah non, sur la population, là, il n'y a aucun souci.
Les parcs sont installés dans des zones peu denses en humains. Donc, on a, voilà. Mais,
c'est la mission d'un parc, hein, le voilà.
Non, mais pourquoi ne pas aider à porter cette ambition? On n'est pas obligé de réussir à fond, quoi, de réussir à 120%. Mais en tous les cas, je pense que si on a cette ambition-là, les maîtrises d'ouvrage qui vont en découler, qui vont être prises, et qui vont être en collaboration, je répète, avec les acteurs du territoire, ne pourront qu'amener une amélioration. Si dans 12 ans, au terme de la première charte, on n'y arrive pas, eh bien la deuxième charte dira où on arrête, où on continue. Et à ce moment-là, on repartira sur ce système-là. Voilà. Je pense pas qu'il y ait d'ambition trop forte pour ce territoire. Aujourd'hui, on parle du saumon aujourd'hui, mais quand vous aurez l'occasion de lire la charte, vous verrez que l'ambition se porte à bien au-delà et bien dans d'autres secteurs.
Bien, très bien. Bon, bah, écoutez, on va essayer de prendre d'autres positions. Alors, la ville de Brioude, si je reste sur le plan des collectivités, comment elle se positionne? Elle est forcément... est-ce qu'elle fait partie du territoire du parc, déjà?
Nous, non. On peut être ville-porte, on est au pied du parc du Haut-Allier, du parc du Cézallier, du parc des Volcans. Hein. On est au cœur des trois parcs, du Livradois, pardon. Alors, la ville de Brioude, elle a fait beaucoup d'efforts pour la qualité de l'eau avec la station d'épuration, qui a été un projet qui a mis plus de 10 ans pour émerger, alors que c'était un objectif prioritaire. Alors moi, ce que je voulais dire, ce que j'ai retenu de ce colloque, c'est que on a ouvert avec les Québécois, et eux, leurs problèmes de gouvernance pour le saumon, ils l'ont résolu en ayant un ministre pêcheur de saumon. Donc, moi, je pense que pour la gouvernance, si on choisissait des élus qui pêchent le saumon, ça nous serait peut-être plus facile. Voilà. Et surtout... mais par contre, c'est vrai qu'il a placé d'emblée les enjeux à un niveau géopolitique international. Mais je me suis dit qu'on était bien tout petits, nous, à Brioude, face aux positions de la Russie, etc. Et alors... Donc, le sujet, c'est comment mobiliser aussi la société civile. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que hier, il y avait beaucoup de jeunes. Et je pense que la gouvernance, ça peut être aussi par la mobilisation de tous les jeunes. Moi, j'étais contente que ce soit particulièrement des jeunes des lycées agricoles. Parce que le sujet de l'eau et de la qualité des milieux, c'est quand même un sujet agricole. On n'en a pas beaucoup parlé. Donc, je pense que la sensibilisation, ça passe vraiment par ces jeunes-là qui se sont rendus compte, qui sont sortis de leur lycée, qui se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui étaient passionnés, des gens du monde entier. Et je pense que ça, pour améliorer, pour pouvoir faciliter aux élus la possibilité de faire avancer leurs idées, je pense qu'il faut vraiment que les jeunes soient motivés. Et la troisième chose, c'est que moi, je suis rassurée quand j'entends M. Forest défendre avec énergie son plan saumon. Parce que si la bonne idée de gouvernance, c'est quand même, pour moi, si les agences de l'eau peuvent avoir la maîtrise des ouvrages de restauration, ça nous dégagera, nous les élus, de quelques pressions, des pressions qui facilitent pas justement les décisions. Voilà.
C'est dit. Alors on va se retourner vers Monsieur Jean-Claude Eudes, donc directeur de l'établissement public Loire, qui à ce stade, on viendra à l'agence de l'eau après, puisque puis après aux partenaires, hein, ou aux acteurs au fond du bassin. Mais au niveau de l'établissement public Loire, donc quelques mots par rapport à tout ça, à la gouvernance, à la maîtrise d'ouvrage peut-être, ou
Je vais dire assez facilement, puisque comme syndicat mixte de collectivités, pour nous c'est extrêmement facile, on applique ce que nos collectivités décident. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai pas résolu le problème, parce que Ce que nos collectivités décident, on le mesure à l'échelle de ce syndicat mixte de 50 collectivités, à l'échelle du bassin de la Loire et ses affluents. C'est pas forcément ce que chacun, sur partie de son territoire, attend. Donc c'est forcément quelque chose qui est certes consensuel à la sortie, mais qui suppose des évolutions par rapport aux projets initiaux que peuvent avoir les uns et les autres. Et pour essayer de répondre plus précisément, je regardais les chronos expo qui sont affichés pour Sauvons les saumons, et il y avait un certain nombre d'indications fédérées. Alors là, on va pas s'attarder sur fédérer, c'est évident, sauf que j'insiste, fédérer, ça suppose qu'on ait confiance. Et la confiance sur des sujets comme ça, ça se construit pas en 5 minutes. Et comme nous fêtons cette année le 30e anniversaire de la création de l'établissement, on mesure en quoi tout l'enthousiasme, tout l'engagement sur ce dossier saumon a permis de le faire vivre. Je retiendrai un des intitulés, il concerne la création de politiques communes. Imaginez des politiques communes, c'est sur un des chronos expo. Alors pour l'imagination, il faudrait quand même pas oublier que nous avons fait déjà beaucoup de chemin. Aujourd'hui, j'entends pratiquement tout le monde invoquer des résultats de travaux, de recherches, de mobilisation de données, dont certains extrêmement avancés. L'imagination, elle passe aussi par cette capacité à innover dans le domaine de la recherche pour éclairer des décisions dans un domaine où, même si chacun est persuadé avoir raison, l'incertitude quand même globalement demeure. L'incertitude demeure, parce que s'il n'y avait que des certitudes, ça fait longtemps, je pense, qu'on aurait trouvé les solutions. Deuxièmement, quand on parle de politique commune, c'est surtout dans les processus, dans les techniques, etc., mais c'est surtout dans les têtes. Et pour créer des politiques communes, là encore, on revient à l'élément que je citais tout à l'heure pour fédérer, on revient à la confiance. Surtout pour créer des politiques communes sur des sujets comme ceux-là, il faut quand même se donner le temps de vérifier en quelque sorte la capacité des uns et des autres à cheminer dans la bonne voie. Aujourd'hui, sur les objectifs, je pense que pour ce qui concerne l'établissement en tous les cas, on rejoint ce qui a été indiqué, c'est-à-dire que l'objectif premier reste la question de la qualité des habitats. L'objectif premier, c'est celui-là. Et que, effectivement, ce que notre collègue du CNSS citait, l'optimisation du repeuplement, là aussi, sur l'objectif pris de manière générique, tout le monde le partage. Là où on rentre, j'allais dire, en véritable discussion, c'est sur les modalités qui permettent de décliner ces objectifs. Mais pour nous, en tous les cas, clairement, objectif premier, qualité des habitats, élément, j'allais dire, poursuivi, encouragé dès lors qu'il s'intègre pleinement dans cet objectif qualité des habitats, par exemple le repeuplement, et ça se traduit très concrètement par une prise de risque pour notre établissement, puisqu'en termes de maîtrise d'ouvrage, il accepte, et on en a parlé suffisamment, il accepte de porter des maîtrises d'ouvrage à la fois sur des questions de restauration de continuité écologique, mais également sur des opérations de repeuplement. Alors, il le fait d'autant plus volontiers, je serais tenté de dire, que, in fine, indépendamment des modalités, on a quand même le sens de cheminer tous dans la même direction de l'intérêt général. Et ce que je voudrais dire, c'est que, sous couvert d'argumentation, il faut qu'on mesure les uns et les autres la difficulté de la tâche, la difficulté de construire, y compris, je citais le document produit en partenariat par nos collègues de l'État. Ce sont des documents, certes, qui sont des bases de discussion, mais qui ont quand même le mérite d'avancer dans la voie qui a été retenue par l'ensemble des opérateurs. Donc, de ce point de vue-là, je serais tenté de dire, pour nous, l'idée de se fixer des objectifs ambitieux en soi, elle n'est pas rédhibitoire. Mais par contre, nous savons que ces objectifs-là, il faudra les partager au-delà du seul cercle des acteurs qui sont déjà convaincus. Parce que se mettre d'accord entre personnes qui sont convaincues est une chose, faire cheminer un dossier de cette importance et avec ces risques afférents, c'est quand même d'une toute autre nature. Et là, ça renvoie au dernier volet, et madame, vous l'évoquiez sur les aspects communication notamment et ces choses-là, ça renvoie à la capacité de nos sociétés à reconnaître ces éléments comme des, j'allais dire, des éléments qu'on rend priorité dans leurs préoccupations. Et là, il faut vraiment mesurer, parce que je profite que nous sommes à Briouge, je salue monsieur le maire, sur le territoire de la Haute-Loire. Le territoire de la Haute-Loire, pour l'établissement, quand même historiquement, c'est un territoire qui fait sens. Et on s'est aperçu que, malgré certaines certitudes qu'on avait pu avoir, un certain nombre d'éléments nous ont amené à modifier un certain nombre de positions. Et globalement, à cheminer dans un sens aujourd'hui qui est accueilli à peu près par tout le monde. Donc de ce point de vue-là, d'accord pour des objectifs ambitieux, mais convenus au-delà des seuls qui sont, j'allais dire, déjà convaincus de l'intérêt de la situation.
Merci. Monsieur Giton, je vais venir à vous. Hein. Forcément, je ne peux pas rebondir sur toutes les interventions, et puis là, il n'y a pas lieu. Monsieur Giton, au fond, vous êtes fait interpeller, je serais tenté de dire, en fin de matinée, et on voit bien que se pose, et encore à l'instant, même par Patrick Martin, donc l'Agence de l'eau soutient effectivement avec efficacité, depuis des années, au fond, l'amélioration des habitats. Ça c'est très clair et c'est, vous l'avez bien rappelé dans la politique. Par contre, et j'ai entendu le cri de la Lannion ce matin, je veux dire ça comme ça au fond, c'est un parmi tant d'autres, hein, ou l'expression de M. Berne, on a le sentiment qu'on rate un certain nombre de choses. Alors, il n'y a pas une réserve à l'Agence de l'eau qui permettrait, au fond, d'infléchir le programme quand il y a une opportunité ou un exemple, c'est-à-dire cette micro-centrale de la Lannion là, qui nous a filé sous le nez, moi je reprends l'expression. Alors, c'est de la gouvernance, au fond, j'ai entendu maîtrise d'ouvrage de l'Agence. Est-ce que c'est le rôle de l'Agence de prendre des maîtrises d'ouvrage quand on a effectivement, comme à côté, l'établissement public Loire qui couvre une part importante du bassin, sans parler des nombreux syndicats de rivières et autres existants ici et là, quelle est la position de l'Agence? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça?
Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, ça n'engage pas ce qui pourrait décider dans 3 ans, dans 6 ans, bien longtemps. Il y a des réformes qui peuvent intervenir en cours de route, qui peuvent changer les missions des agences de l'eau dans leur ensemble, en particulier celle de Loire-Bretagne. Aujourd'hui, pour ce qui concerne Loire-Bretagne, la maîtrise d'ouvrage, on n'y va pas du tout. On n'y va pas du tout, notamment sur l'exemple que j'avais précédemment évoqué. L'EPL prend en charge des maîtrises d'ouvrage, il y a tout un tas d'actions qui rentrent tout à fait dans les munitions d'un EPDB. Donc on a assez de structures, j'ai envie de dire, en France pour éviter d'en rajouter ou de compliquer les montages. Donc on contribue à la salmoniculture de chanteuses, mais je dirais normalement en aidant directement le maître d'ouvrage qui fait son affaire du marché, etc. etc. Donc ça, c'est sur la maîtrise d'ouvrage. C'est réglé, je vous dis, peut-être qu'un jour ça changera, mais la maîtrise d'ouvrage, ça signifie aussi avoir des moyens humains, et nous, on est comme tout le monde, on est amené à veiller à être collectivement efficace. Donc aujourd'hui, l'efficacité, c'est plutôt si quelqu'un peut le faire et a montré qu'il le faisait bien, on ne voit pas pourquoi changer. L'autre question qui est évoquée, c'est le programme aujourd'hui, est-ce qu'il peut évoluer? Bon, je pense qu'il faut déjà se remonter un tout petit peu en arrière en se disant que ce qu'on a aujourd'hui dans le 10e programme, c'est le fruit de discussions qui n'ont pas toujours été simples. Je me souviens de... ça appartient à l'histoire aujourd'hui. Hein, on commençait à évoquer les premières aides à la salmoniculture. Le comité de bassin, le conseil d'administration d'alors, c'est une époque ancienne, commençait à dire en plaisantant, j'ai entendu, ça fait cher du kilo de saumon. Le propos était sans doute complètement à côté de la plaque, mais il y a des efforts à faire pour convaincre, dont il faut quand même bien prendre la mesure. Donc l'équilibre auquel on est arrivé aujourd'hui dans le 10e programme, il est déjà le fruit d'un travail des uns et des autres, d'explications, d'écoute quand on parle de gouvernance. Parce que quand on parle, qu'est-ce que l'agence doit aider? Alors là, tout le monde a des idées. Moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et plutôt 50%, non, plutôt 110% et plutôt 100%. Et immédiatement, quand il y a le commissaire aux comptes, si je peux dire, qui dit, bon, ben maintenant, il faut équilibrer par des redevances. Qui veut payer plus de redevances? Vous voyez toutes les mains qui s'abaissent. Donc c'est un savant équilibre, le programme. Donc aujourd'hui, il est ce qu'il est, et s'il fallait le modifier de manière sensible, ok, on met plus d'argent parce qu'il y a une vraie demande, parce qu'encore faut-il qu'il y ait une vraie demande. On met plus d'argent, alors ça s'équilibre comment? Sur quoi met-on moins d'argent? C'est une question, dès qu'on la pose, on se rend compte que c'est pas facile d'y répondre. Ou si la réponse pouvait être « qui va payer plus ?», la réponse sera tout aussi difficile à obtenir rapidement. Donc on a un programme, il commence à fonctionner, à coup sûr il n'est pas parfait, à coup sûr le consensus final, chacun n'y trouve pas complètement ce qu'il avait pu imaginer au départ, maintenant on espère que ça va avancer, et puis on est dans un processus normal de révision à mi-parcours des programmes, parce qu'ils sont faits pour 6 ans, donc 6 ans c'est long. Donc, au bout de 3 ans, il y a des choses qui peuvent être revues, des grands équilibres qui peuvent être revus, des choses qui avancent, des choses qui n'avancent pas. Donc on peut imaginer de revoir, pourquoi pas, des taux, pourquoi pas un certain nombre de choses. Et puis tous les 6 ans, c'est vraiment des choses qui sont complètement rebattues. Là, on est aussi sur des chantiers, on sait très bien que dans 6 ans, il y aura encore des choses à faire, à conforter, à stabiliser. Voilà.
Merci. Voilà, là je vais rien ajouter non plus, hein. On va continuer, on donnera, on essayera de donner un tout petit peu de temps à la salle, hein, vaut mieux. Monsieur Bartou, je terminerai avec Louis Sauvadet, qui lui, au fond, a sans doute sa vision, hein, par rapport à vous tous, c'est pour ça que j'en finirai avec lui. Monsieur Bartou, donc vous représentez EDF, si je reprends au fond ce que tout le monde pour exprimer, si on garde le passé, EDF s'est fait quand même largement tirer l'oreille pour arriver à réfléchir, à apporter des solutions autour de ce problème de Poutesse. Je résume, hein, puis je fais un peu de provoque au passage, mais aujourd'hui on sent à vous entendre qu'il y a une volonté de partager, justement de coopérer, d'aller sur un nouvel espace, un nouveau dialogue, donc y compris sur le allié, sur le haut allié, pardon, comment ça peut se traduire ça?
Oui. Ça me semble important effectivement de faire le constat que ce que l'on réalise, on veut réaliser sur l'hôtelier et sur Poutesse, c'est effectivement des choses que l'on mène sur d'autres bassins. Je voudrais en profiter du coup pour citer un exemple et peut-être livrer un petit retour d'expérience sur ce qu'on a vécu, par exemple ce qu'on vit sur le bassin du Lot et de la Truyère. Où finalement sur ce bassin-là, après avoir engagé une étude sociétale sur le bassin, on s'est rendu compte que finalement les acteurs du bassin nous disaient vous êtes présents sur le territoire. Hein, il faut savoir que sur le bassin de la Truyère notamment, on a un outil énergétique assez conséquent. On a également beaucoup de personnel sur place. Vous êtes présent, mais il faudrait renforcer votre présence et votre engagement local, notamment vis-à-vis du tissu industriel. Et donc on s'est appuyé sur ce feedback pour engager une réflexion sur la gouvernance locale. Alors quelques éléments de retour d'expérience sur cette gouvernance. Tout d'abord, on s'est rendu compte, ou du moins on a eu la confirmation, que la mise en place d'une gouvernance nécessitait un temps préalable de réflexion ensemble, de concertation, de construction ensemble de la gouvernance. Ça semble assez évident quand on le dit comme ça, mais je pense qu'il faut le rappeler. Et finalement, sur la démarche sur la Truyère et le Lot, on a pris plus d'une année à travailler avec, et je partage ce que disait monsieur Hutt tout à l'heure, avec des acteurs au-delà même du périmètre, je dirais, de la problématique. Et ça me semble effectivement un élément important. On a mis autour de la table, bien évidemment, les acteurs concernés, mais on a étendu le cercle, on l'a également étendu à des universitaires, à des gens qui nous apportaient également des réflexions un peu plus conceptuelles, voire théoriques sur le sujet. Donc, définir une gouvernance, ça ne peut pas se faire seul, et donc du coup, il faut qu'on travaille à cette construction, co-construction de la gouvernance. Je pense que ce qui se passe là depuis hier, forcément, y contribue. Et puis le deuxième point, c'est bien définir du coup par cette concertation-là le périmètre, la compétence de la gouvernance, et bien définir également ce que doit être la compétence et qu'est-ce que ça ne doit pas être. En d'autres termes, comment cette instance de gouvernance ne se substitue pas à d'autres instances de gouvernance déjà présentes. Voilà, donc il y a effectivement déjà des instances de gouvernance. Il faut être très attentif à soit s'inscrire dans telle ou telle démarche, soit créer quelque chose à côté, mais en étant attentif à ce que, bien évidemment, ça ne soit pas en interférence. Donc ça, c'est, semble-t-il, un élément important. Enfin, dans tous les cas, c'est le retour d'expérience qu'on a eu, le feedback qu'on a eu par cette expérience du Lot et du Lot La Truyère. Aujourd'hui, je le disais hier, un des atouts, je crois, enfin la prise de conscience qu'EDF a en termes d'atouts de l'hydroélectricité, c'est l'ancrage territorial. Je vous le disais hier lors de ma présentation. C'est non seulement un atout, mais on veut réellement en faire un enjeu et un bras de levier stratégique de notre action. Donc, autour de Poutès, l'idée, et il faut qu'on échange avec les uns et les autres, et j'entends plein de choses intéressantes, y compris autour de cette table ronde, autour de Poutès, on veut aller au-delà de la simple action vis-à-vis des poissons, vis-à-vis de la conciliation entre l'outil énergétique et la remontée des saumons. On veut vraiment, et on sera très attentif à ce qui va se passer autour de finalement du projet territorial qui va avec. C'est aussi pour ça que ça nous semblait important de conserver un outil industriel dans le paysage, parce que derrière, nous semble-t-il, il y a du coup un projet territorial qui a une compétence supplémentaire et qui va vers le fameux développement durable. Donc on est très attentif, le parc, l'établissement public, enfin tous ces acteurs-là, nous on sera très actifs dans les réflexions à partir du moment où ça embarquera bien un projet territorial, un ancrage territorial. C'est un de nos enjeux et on compte bien aller de l'avant là-dessus.
Bravo, hein, on entend bien ce que vous nous dites depuis hier, hein, vous êtes au rendez-vous au fond, hein, c'est important que vous puissiez apporter au fond cette parole. Louis Sauvadet, donc association protectrice du saumon, forcément il a beaucoup de choses à dire, et je vais donner tout de suite la parole, mais c'est la parole à une association militante et ô combien importante pour le saumon, parce que c'est l'acteur. Moi, je reçois, j'ai reçu encore tous ces temps derniers des informations. Je vois des saumons que je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit, il n'y a pas un moment, il faut que j'arrive à monter sur ce voilier pour regarder justement les poissons frayés. Parce que quand il m'envoie des images ou des petites vidéos, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Allez.
Oui, d'abord, je voudrais remercier Roberto et puis toute son équipe pour l'accueil.
Le micro proche de...
Je voulais remercier tout d'abord Roberto et puis toute son équipe pour l'organisation. Ça a été très chouette de sa part. Ce qui n'a pas été aussi rappelé, c'est que le saumon, c'est une espèce transnationale. C'est-à-dire, pendant longtemps, il nous a amené à l'intérieur de notre beau pays les richesses de l'océan. Ça a été une ressource alimentaire très importante. Ensuite, au niveau des ONG, je dirais, on a un rôle parce qu'on titille un petit peu, même au-delà de nos frontières. On l'a bien vu hier avec Ori Wilkinson, qui titille un petit peu l'OSCAN pour qu'il prenne les bonnes décisions avec les Groenlandais. Nous, notre rôle sur le terrain, il s'accompagne avec celui de SOS Loire Vivante et puis de WWF. Ce que je dirais, c'est que quelquefois, il faut bien tenir compte des acteurs de terrain, notamment les conseils scientifiques, c'est bien, mais il faut aller sur le terrain, regardez. Parce que lorsque je vois des indicateurs, des choses comme ça, puis lorsqu'on lit dans les littératures, par exemple, qu'il y avait au moment des frayères 1000 saumons entre Saint-Étienne-du-Vigan et Monistrol, sachant qu'il y avait les deux tiers des frayères qui étaient ici, on peut s'interroger un petit peu. D'autre part aussi, le rôle des ONG, c'est la boîte à idées. Par exemple, lorsqu'on attend ce matin, on a loupé le coche pour des microcentrales. Pourquoi pas lancer des souscriptions? C'est peut-être un levier auquel on n'a pas pensé sur l'allier. Pardon?
Oui, bien sûr. Oui, ben oui, c'est une piste, hein, il a tout à fait raison.
Ensuite, une autre question, c'est comment associer la société civile et les acteurs économiques. Alors, il y a une action qui est éducative qu'il faudrait faire, c'est-à-dire nous, ce qu'on pense, c'est que la visite des incubateurs, c'est un rôle très pédagogique au niveau des enfants. Et puis ensuite, Ce qu'on peut penser aussi, c'est que au niveau des frayères, parce que les gens, ils vont contribuer, tout le monde va contribuer à la richesse saumon, mais si personne voit un saumon, et on a juste l'observatoire de Vichy tout de suite, pourquoi pas avoir un observatoire dans un site de frayères qui 9 années sur 10 où il y a des frayères, ou pourquoi pas installer une webcam pour que tout le monde en profite. Voilà, parce qu'il y a des idées nouvelles. Et puis, lorsque il faudrait lancer aussi le débat de fond sur la pêche récréationnelle, je veux juste indiquer un chiffre, c'est que l'Allier a un très haut potentiel. Hier, je vous ai passé un slide, il y a 60% des rivières norvégiennes auxquelles le potentiel de prise est inférieur à 100 saumons. Et l'Allier, nous avons un potentiel de 1000 saumons, ce qui générerait environ un chiffre d'affaires par retour d'1 750 000 euros. Ça, il faut le dire aussi. Et c'est générateur d'emplois dans l'hôtellerie, dans les guides de pêche, etc. Il y a aussi associé aussi tous les acteurs, c'est-à-dire ça allait jusqu'à l'office de tourisme. Et les sportifs devraient contribuer financièrement à la surveillance des frayères. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.
Merci, Louis Sauvadet. Alors, bien sûr, on n'a pas fait le tour. C'est toujours le problème de ces tables rondes où chacun prend la parole et exprime. Ce qui est important, c'est d'écouter l'autre, c'est ce qui a été dit. Alors, peut-être que vous avez, vous, des idées à apporter, au-delà de celles qui ont été exprimées ici. Voilà, Monsieur Vissac, bien sûr.
J'aurais voulu tout à l'heure, dans la deuxième table ronde, aborder le sujet, mais j'ai profité de la présence dans cette table ronde de M. Giton et de M. Heude pour aborder le sujet suivant. Je suis le président du syndicat du Hôtelier, j'ai oublié de le préciser, et puis en même temps je représente ici le conseil général de la Haute-Loire, avec l'accord du président d'ailleurs, et qui regrette de ne pas être là. Nous avons le problème, parce que nous conduisons le sage du Hôtelier, nous avons le problème à la fois du débit et de la qualité. Alors, sur le débit, ça dépend évidemment de l'EPL, monsieur, bien sûr, vous le savez, il est nécessaire que nous soyons avertis, et en tout cas partenaires, pour connaître quelles seront les mesures désormais du débit du barrage de Naussac. Ça me paraît essentiel. On nous avertit à une dernière réunion que le débit serait révisé, plutôt à la baisse, ce qui est parfois inquiétant parce que je parle du saumon bien sûr, mais je parle de toute la pêche en même temps, et nous observons sur l'Allier qu'il y a des fluctuations de débit qui met en péril évidemment les poissons. Mais je sais que vous nous écouterez si vous voulez nous voir pour discuter de cette affaire. Sur la qualité, nous en sommes sur le sage maintenant aux propositions. Et demain, c'est l'EPL qui va conduire le SAGE, qui aura la traduction du SAGE. Donc aujourd'hui, nous posons les questions et nous observons que la qualité sur nos rivières manque évidemment. Tout à l'heure, tout le monde l'a dit certainement hier et aujourd'hui, je l'ai encore entendu cet après-midi, la qualité n'y est pas. La qualité n'y est pas sur le problème halieutique. Et cette qualité demande beaucoup d'efforts. Alors, parce que depuis longtemps élu sur ce territoire, je vois venir petit à petit des améliorations qui sont certes sensibles, des améliorations par rapport aux collectivités qui font des assainissements, qui font des épurations, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi d'autres pollutions qui nous permettent de dire si on ne les résout pas, on n'aura pas la qualité de l'Allier pour que le saumon soit définitivement adopté dans son retour. C'est pour ça que je crois à un moment ou l'autre qu'il faut peut-être aider. Alors, on dit toujours, bon, ils font la quête, Vissac demande des finances, etc. Non, mais je crois qu'il aurait fallu des mesures spécifiques. Quand on veut avoir les moyens de sa politique, il faut avoir des mesures spécifiques pour arriver à aider les collectivités ou d'autres à avoir une sensibilité plus et en fait des actions sur les assainissements et sur l'épuration. Là, il y a encore un effort à faire. Alors, je me félicite entre l'Agence de l'eau et le Conseil général de la Haute-Loire, une convention annuelle, pluriannuel plutôt, qui permet d'aborder les projets et qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Mais je pense qu'il nous faut un coup de collier supplémentaire si on veut arriver à avoir une qualité qui permette justement la vie du saumon et en général des poissons.
Merci. Vous voulez dire un mot derrière, M. Roucan ? Non ? Monsieur Aude ? Oui, il n'est peut-être pas ouvert celui-ci. Non, mais il va nous donner tout de suite. Normalement, ils marchent tous. Hein, il est juste patienté quelques secondes.
Simplement remercier M. Vissiat pour ces deux questions sur à la fois la quantité et la qualité. Effectivement, sur la quantité d'eau, mais la gestion d'un ouvrage comme nos sacs s'inscrit scrupuleusement, j'allais dire, dans le respect des règlements d'eau pour satisfaire sa fonction première qui est le soutien d'étiage. Par contre, ce que nous veillons à faire aussi systématiquement, c'est chaque fois que dans les modalités de gestion, il y a des possibilités d'améliorer pour concilier d'autres usages que l'usage premier qui est celui du soutien d'étiage, eh bien, ma foi, nous nous y employons, et j'allais dire, avec la collaboration des services de l'État. Donc, dans ce registre-là, il n'y a pas de frein à l'identification de solutions qui permettent d'aller toujours plus loin. Sauf, je répète, le respect de la mission première, qui est quand même la mission première de soutien des péages, et également dans la sécurité du fonctionnement de l'ouvrage. Pour ce qui est de la qualité des eaux, il est clair qu'on se trouve dans un système qui est plus complexe, puisque cela suppose d'élargir le périmètre de la seule retenue pour aller adresser les problèmes à leur source, c'est-à-dire essentiellement au niveau des lieux de pollution, et c'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs avec le soutien financier assez conséquent de l'agence, en appuyant dans le cadre de contrats territoriaux notamment, un certain nombre d'initiatives à ce titre. Et vous soulignez qu'il y a quelques progrès consentis, on peut tous espérer améliorer ces progrès-là, mais je répète, cela suppose d'inscrire délibérément l'action sur le périmètre qui est le bon, celui qui traite des causes et non pas simplement des conséquences des pollutions constatées le cas échéant. Donc de ce point de vue-là, très clairement, les préoccupations se rejoignent et la capacité à imaginer des solutions nouvelles, j'allais dire, elle est forte. Et dès lors que l'ensemble des acteurs, en général, y trouvent un intérêt commun, ça se fait peut-être pas assez vite, peut-être pas assez régulièrement, peut-être pas assez systématiquement, mais cela se fait. Avec une limite toutefois, bien précise, c'est qu'à un moment, s'il faut choisir entre deux intérêts légitimes, il y a un intérêt légitime qui est celui du soutien d'étiage.
Oui, allez-y, hein.
L'argent peut faire beaucoup de choses, mais pas tout. Il existe en France un outil qui est quand même très intéressant, c'est le SAGE, Schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui a l'avantage de réunir une clé. Donc c'est une belle instance de gouvernance qui réglementairement réunit tout le monde, met tout le monde autour de la table. Le SAGE doit faire un état des lieux. C'est-à-dire que ce que tout le monde sait, on l'écrit noir sur blanc, et c'est discuté. Et au bout d'un moment, plus personne ne devrait dire ce qui est là est faux. Le SAGE définit un règlement. Le SAGE définit un projet d'aménagement et de gestion durable. Toutes choses qui ont une portée juridique, qui soulignent les lacunes et qui soulignent des moyens d'action qui permettront de progresser. C'est adopté par une clé. C'est arrêté par un préfet. Donc une fois qu'on a ça, qu'on a bien discuté, à ce moment-là, l'argent, effectivement, c'est l'huile qu'on met dans les rouages et qui permet d'avancer. Mais à ce moment-là, le service de police de l'eau, il n'a plus de problème pour faire bouger tel assainissement où jusqu'à présent, ça ne se passait pas très bien. L'élu tout seul, qui est franchement embarrassé parce que l'assainissement non collectif, c'est un sujet, j'ai entendu aucun élu dire que c'était facile à traiter. On m'a plutôt dit que c'est un cadeau empoisonné que de nous donner des responsabilités en la matière. Mais au moins, il ne se sent pas seul. Il peut dire, écoutez, il y a un document qui établit que dans notre rivière, le problème de l'assainissement non collectif, c'est un problème majeur. Et ce que je dis là, ça ne sort pas de n'importe où. Au hasard des discussions au cours des déjeuners, j'ai cru entendre qu'il y a en tel et tel endroit de l'assainissement non collectif, c'est en gros le tuyau direct à la rivière. Donc, que les acteurs locaux utilisent les outils qui leur sont confiés. Et nous accompagnerons, alors là, volontiers, et on sera beaucoup moins en difficulté de qui cherche un maître d'ouvrage, etc. Une fois que tout le monde est d'accord
que plus personne n'ose dire c'est pas ça le vrai problème, et que tout le monde se sent obligé d'y aller et qu'on avance en rang serré, j'ai envie de dire on gravit des montagnes.
Merci. Alors, peut-être une dans la salle, pas plus, parce que j'ai alors une ou deux maxi, parce que j'avais la boîte à malice que j'avais proposée à l'entrée, et j'ai un certain nombre de lectures à faire, et puis après j'ai peur pour les horaires, donc si vous acceptiez, mais c'est pas possible, faut être honnête, on va sortir 10 minutes, mais il faut vraiment que ça soit que 10 minutes, auquel cas je prends une ou deux. Roberto, c'est toi le chef, si tu dis que je peux faire mieux, moi je veux bien, tu prends des risques. Eh bien, on y va, alors. OK. Alors, on continue, là, sans souci. Il l'a dit, hein, c'est lui le chef.
Dans le cadre des développements, on parle beaucoup de l'importance des maîtrises d'ouvrage. Donc, il y en a qui existent, et il en faudrait un peu plus. Monsieur Ladret a dit qu'il fallait prêcher pour sa paroisse, donc je vais prêcher un petit peu aussi. Je dis aussi, c'est l'importance de la structuration et de l'organisation de ces maîtrises d'ouvrage. Notamment, pourquoi ? Parce que ce sont les acteurs de terrain qui sont un peu les oubliés de cette organisation par le haut, notamment les techniciens de rivière, qui sont au contact de la population, qui sont au contact des propriétaires d'ouvrages, des riverains, donc à la fois pour lancer les actions, lancer des travaux, faire de la communication, de la sensibilisation, etc. Et malheureusement, dans beaucoup de structures, hein, parce que quand on voit la déclinaison, donc depuis la DCE, en passant donc par les financeurs, les élus, les maîtrises d'ouvrage, jusqu'à la mise en œuvre par les techniciens. Malheureusement, ça s'égrène un petit peu, et on voit que beaucoup de structures ne sont pas stables au sens de l'emploi par rapport à ces techniciens-là. C'est-à-dire qu'il y a trop de... On parlait tout à l'heure d'isolement des porteurs d'ouvrage, on peut parler aussi de l'isolement du technicien dans sa précarité en tant que technicien, dans la mise en œuvre des programmes d'action. Et je pense que l'efficacité des actions sur les cours d'eau, sur les habitats et sur le saumon mériterait avoir une structure déjà à la base qui soit un peu plus saine pour éviter trop de turnover et des techniciens qui connaissent bien leur population, bien leurs élus et bien leurs cours d'eau pour mener des actions plus durables sur le long terme.
Merci, ça souffle pas forcément d'appel. Jean-Paul Doron qui est juste devant, voilà.
Oui, très très brièvement, parce que j'aurais épuisé mon temps de parole personnellement. Je voulais faire une première remarque sur cet atelier, notamment pour rebondir sur les propos de monsieur le député. On est d'accord qu'effectivement, sur la forme, gérer l'axe Loire-Allier peut constituer une priorité nationale. Encore pour cela, il faille effectivement que ne pas déresponsabiliser les acteurs locaux. Ça passera avant tout, me semble-t-il, par une responsabilité des acteurs locaux. Et ça sera ma proposition. Je pense qu'on ne peut pas faire fi, je dirais, de vouloir réclamer un objectif ambitieux sur le repeuplement, notamment, parce que c'est un pis-aller aujourd'hui, hein, c'est faute de mieux, hein, quelque part, et sans revenir en cause sur les considérations techniques. Aujourd'hui, il faut se fixer aussi, de manière concomitante, des objectifs, je dirais, avec donc des objectifs ambitieux sur les habitats. Vous avez parlé de curseurs d'excellence. Oui, des curseurs d'excellence sur tous les compartiments, pas simplement sur le repeuplement, mais aussi sur les habitats. Il n'y a que comme ça, effectivement, que s'il y a, un engagement dans le cadre d'un programme, d'une convention, d'objectifs, que effectivement, à terme, et on ne sera pas dans 10 ans ici à se retrouver pour juger effectivement du peu d'avancée. Quant au résultat, comment l'amélioration de la qualité de l'eau et des habitats, je voudrais relativiser le propos parce que je suis administrateur de l'Agence de l'eau par la Bretagne par ailleurs. Ils étaient présentés en comité de bassin les premiers résultats de l'état des lieux. Aujourd'hui, malheureusement, et malgré les efforts consentis qu'on ne saurait contester, on est dans une situation du maintien de l'état et il n'y a pas de réelle avancée sur la qualité. Et notamment, un des facteurs limitants, très clairement, c'est l'hydromorphologie. Donc il faut véritablement que là, on se fixe collectivement, de manière partagée, dans le respect de la gouvernance, justement, des objectifs, effectivement, et un programme ambitieux. Et là, c'est le lieu du débat. Je souscris par ailleurs à l'idée qui a été formulée par la PS, effectivement, de l'idée de lancement d'une souscription sur le rachat de certaines microcentrales. C'est une bonne idée. Cependant, Et je dis bien cependant, elle doit emporter l'adhésion effectivement de l'ensemble des acteurs locaux et pas uniquement du milieu associatif pêche. Ce n'est pas simplement au milieu associatif pêche de porter ces éléments. Je voudrais néanmoins souligner effectivement le courage et la volonté politique, surtout notamment quand il y a des faillances de maîtrise d'ouvrage sur le plan local, du tissu associatif pêche que je représente, sur la rivière Orne, on vient de racheter 2 micro-centrales, coût global pour la petite histoire, avec le soutien financier de l'agence de l'eau sur Seine-Normandie, faut-il le rappeler, et je tiens à le dire ici, effectivement, 2 millions d'euros en coût global, c'est-à-dire l'achat et l'effacement, mais porté par des maîtrises d'ouvrage, des structures associatives. Je ne pense pas, malheureusement, même si ça émane de volonté et de la courage politique locale, que ce soit de notre responsabilité.
Merci. Tout là-haut, il y a au moins 2 mains que je vois se tendre. Parce qu'apparemment, je n'arrivais pas à monter suffisamment mon regard hier. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup mieux en étant sur l'estrade, ça change tout. J'étais caché derrière le pupitre. Allez-y, monsieur.
Oui, bonjour. Je m'appelle Emmanuel Gladel, je suis brivadois, j'ai 60 ans. Je suis guide de pêche en écho sur la rivière Soupé depuis 12 ans. Donc j'aurai quelques réflexions et commentaires à faire sur la gestion actuelle et précédente à partir du premier colloque. En premier, je voudrais qu'on augmente pour réconforter d'abord Patrick Marcin et son travail considérable et lui apporter de transporter, ça ne doit pas être très coûteux non plus, de transporter des saumons attardés dans l'eau allier. Ça conforterait le nombre de frayères en plus, ce qui est, ne croyons pas surtout qu'il y en a déjà beaucoup. Pour moi, c'est nettement insuffisant. Je voudrais qu'on cesse également les prélèvements sur les radiopistages. Parce que je trouve que c'est un gaspillage et que l'Allier aujourd'hui ne peut pas se permettre le radiopistage de 80 saumons en 2009 par les professionnels de Loire. Apparemment, je mets entre parenthèses, soi-disant qu'ils n'en prennent jamais. Ils ont fait ça en 4 jours. Coût de l'opération, 180 000 euros. Je préférerais que ces 180 000 euros soient considérés pour refaire la microcentrale de Vieille-Brioude et surtout l'aménager. Vieille-Brioude, aujourd'hui, c'est un véritable problème au niveau de la région brivadoise. C'est bien beau de compter des saumons à Vichy, c'est très joli d'avoir une belle qualité d'eau. Si c'est pour leur faire couper la tête dans la microcentrale, je dis ça, c'est inacceptable. Et là, je m'adresse aux élus de la Haute-Loire qui, à mon avis, me soutiennent et arriveront à régler enfin ce problème qui ne doit pas être très coûteux. Ça ne coûtera pas 180 000 euros de mettre des grilles pour interdire l'accès au canal de fuite. Je voudrais que ce soit fait le plus rapidement possible. Parce que si moi, j'ai réussi, étant donc, je ne suis pas un scientifique, mais un homme de terrain, et si je vois, donc en mai 2012, 2 saumons morts, c'est parce que je suis au bord de l'eau, et quand je le signale, je ne suis pas toujours aimé dans cette région brivadoise. Je gêne. Et je voudrais qu'on travaille un petit peu ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas.
Gardez le micro.
Je vous passe, ou peut-être pas, on peut en une minute, un peu plus, je ne voudrais pas monopoliser le temps de parole. Je voudrais quand même qu'on prenne quand même en garde, cette grande mise en garde que sont les cormorans et leur prédation. C'est bien bon, et là je soutiens 100% une fois de plus la production de Patrick Martin, mais je me demande sincèrement à quoi sert cette salmoniculture, sinon, si ce n'est que de nourrir des cormorans. Et des silures, et au retour, et des saumons de retour. Vous l'avez vu, il y a même une vidéo, c'est pas sur l'Allier, mais c'est à Golfech, où il y a encore moins de saumons que sur l'Allier. Vous avez 4 silures dans un bassin de la passe à poisson de Golfech qui mange un saumon qui fait environ 5 à 6 kilos. Ça aussi, c'est la protection des saumons.
Pour terminer, je voudrais parler
encore de la réouverture de la pêche. Parce que moi, j'ai fait un projet pour réouvrir la pêche dans la région de Brioude. Bien. Essentiellement, je dis bien, dans la région de Brioude. Avec remise à l'eau obligatoire. C'est-à-dire pour remettre à nouveau des pêcheurs de saumon au bord de l'Allier et éduquer ceux qui n'ont pas eu la chance de pratiquer cette pêche et qui n'ont pas assez d'argent pour venir à l'étranger avec moi. C'est-à-dire commencer à éduquer des gens et des générations pour la pêche du saumon. Ce que c'est véritablement que la pêche du saumon. Et ça, je le demande sur un moratoire de 5 ans. Vous savez ce que sont les moratoires depuis que les colloques existent. On en est déjà au 4e moratoire de fermeture de la pêche du saumon. Moi, je voudrais que ce soit le premier pour la réouverture d'une certaine pêche récréative avec obligation de remettre les saumons à l'eau. Voilà. Et uniquement à la mouche, pendant un mois.
Merci.
Est-ce que c'est trop demandé?
Non, mais je vais vous proposer, moi, besoin de reformuler votre question à la prochaine table ronde. Ça sera le sujet. Et là, il vaut mieux qu'on passe tout de suite aux questions qui sont vraiment en lien avec cette table ronde. Hein. J'évacue pas du tout votre question, hein, vous aurez l'occasion. Alors, dans la salle, je vais reprendre malheureusement pas plus d'une question, et puis je lirai les miennes, et si on a encore un peu de temps, j'en reprendrai une. Voilà.
Et bonjour, François Josancy, pêcheur de saumon de Brioude. C'est la table ronde de la gouvernance. Donc nous, pêcheurs de saumon, ça fait 20 ans où notre encéphalogramme est plus que plat au niveau de la pêche du saumon dans l'Allier. Ça fait 20 ans qu'on s'interroge, qu'on se pose des questions. On a eu quelques réponses. Nos amis scientifiques ont fait un très joli travail. Notre ami pisciculteur a fait un très joli travail. Aujourd'hui, on a parlé d'objectifs. Ce que j'aimerais savoir, c'est, un, qui fixe les objectifs aujourd'hui? Deux, qui en est responsable, puisqu'on parle de gouvernance? Et trois, dans quelques années, à qui on devra demander des comptes? Parce qu'il va bien falloir, à un moment, que quelqu'un nous rende des comptes. Nous, ça fait 20 ans qu'on attend. On ne va pas attendre encore 20 ans. Qui va répondre à ça?
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle qui est capable aujourd'hui de vous répondre. La question, elle est posée. Ça, c'est une certitude. Ah, ça peut exprimer ça. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà, c'est un drone. Bon, Roberto, non mais on ne l'évacue pas, hein, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Là, pour le moment, vous la posez. Parmi les gens qui se trouvent autour de moi, voilà, et personne dans la salle pour le moment tient à vous répondre. Roberto, tu la poses, et puis, parce que Roberto Eplé avait aussi lui une question, a priori je peux faire le tri, donc je reviendrai tout à l'heure, elle serait plutôt pour le deuxième atelier.
Micro. Oui, merci de me passer la parole. On est dans la gouvernance, et je voudrais en placer une remarque à ce sujet. Auprès de M. Forêt de la Dréal, comme une interrogation, et en même temps faire une remarque comment je vis, moi, à titre de président d'une association impliquée, comme vous le savez, les Sosdorivant travaille depuis pas mal de temps sur ce sujet. D'abord, à M. Nicolas Forêt, vous allez faire votre plagiat commis le 25 octobre, c'est vrai, c'est assez court. Peu de temps d'ici au 25, mais c'est comme ça. Nous n'avons pas mis notre colloque en fonction de l'élaboration du plagiat commis, c'est évident, mais on a pu synchroniser un petit peu, c'est déjà pas mal. Mais je regrette profondément quand même que je me trouve dans l'impossibilité d'y assister à ce plagiat commis. Les associations, ils n'ont aucune place aujourd'hui dans, si vous voulez, dans cette gouvernance-là. Je me demande, je sais que ça risque de vous compliquer la vie, encore un peu plus, mais je me demande quand même s'il ne faudrait pas s'interroger si une place pour les associations de protection de la nature n'est pas presque obligatoire. À partir du moment que nous avons fait l'épreuve quand même d'être aussi constructifs, même si parfois on est très opposé à certaines mesures, mais je crois qu'on a fait les preuves qu'on peut coopérer. Alors moi, je vous demanderai vraiment de réfléchir sur cette question, que les associations sont associées à ce processus. Et donc, d'une certaine façon, être plus ancré encore dans ou sur le territoire. L'autre chose que je vis, et ça c'est positif, c'est celui que le hôtelier et tout son passé avec Coutès, enfin, tout ce que je veux dire, et je regarde le saumon qui est accroché là derrière, vous savez, parce que lui, il était avec nous quand on a occupé Coutès, hein, il était avec nous celui-là, il est toujours là, pas comme une menace, mais voilà, il est encore dans la rivière, nous avons finalement pu gagner avec vous ce combat pour maintenir. Mais depuis, ce qui s'est passé, c'est magnifique. C'est-à-dire, l'exemple du PNR, l'exemple de Poutès, le me montre en pratique chaque jour, quand EDF, par exemple, nous appelle pour qu'on coopère sur la communication de futurs hôtes alliés avec un nouveau Poutès. Ça s'est fait dans les dernières semaines et mois. C'est ce que j'appelle, moi, enfin, le début d'une forme de gouvernance qui se met doucement en place. Et ça, c'est pas un compliment comme ça pour faire plaisir. C'est réellement une avancée que nous considérons comme importante. Et ça met aussi nous-mêmes en valeur avec tout le travail qu'on a fait depuis longtemps. Ça concerne donc EDF dans ce cas-là et le PNR. Et je me félicite vraiment que ça se met en place. On en a mis 20 ans, hein, c'est vrai, mais on est arrivé. Donc voilà un positif, un exemple positif localement. Il resterait à voir si au plagiat commis, on n'a pas une petite place en avenir, peut-être pas encore le 25, mais le prochain. Voilà, merci beaucoup.
Alors, ah ben oui, non, mais alors vous êtes dans un jeu redoutable. Hein.
C'est l'organisateur qui m'interroge.
Et oui,
vous m'excuserez, monsieur l'animateur, j'ai quelques éléments de réponse, donc je trouve important d'éclairer. Le COGEPOMI est une structure, je suis désolé, qui est ce qu'elle est. J'ai tendance à appliquer les textes, c'est pas moi qui ai choisi sa composition. Nous avons commencé il y a plus d'un an. Quand j'entends dire que les associations sont ignorées, j'ai tendance à dire que j'ai déjà fait pas mal de choses qui n'étaient pas prévues dans les textes. Justement, parce que je souhaitais qu'il y ait de la concertation. La Comina, où un certain nombre d'associations sont représentées, a été régulièrement associée. Nous avons consulté toutes les clés concernées par le plagiat commis, Loire. Nous avons répondu présent et nous avons effectivement ajusté notre travail à la réunion d'aujourd'hui pour écouter les gens. Je resterai dans le schéma, j'ai une structure qui doit réglementairement avoir sa composition pour que sa décision ne soit pas contestée. Ne dites pas autre chose dans la salle, j'ai des gens qui savent très bien me faire du contentieux. Il y a telle personne qui ne devait pas y être. Donc je serai impitoyable. Vous m'excuserez, j'en fais plus avant, j'en fais plus après. Je fais ce que les textes me prescrivent de faire. Je suis un fonctionnaire borné à certains moments. Je voudrais aussi dire, puisque la question était posée, la consultation du public sur le plan de gestion, c'est une consultation par Internet. Le document sera publié sur le site de la DREAL, il sera également visible via le site de l'agence de l'eau, via les sites de préfecture qui seront censés renvoyer sur notre site, et vous aurez 3 semaines pour faire part de vos remarques, et je suis tenu, à l'issue de le recueil des remarques, de faire un rapport disant comment je prends en compte les remarques qui ont été émises. Voilà, donc on aura encore une occasion d'en discuter. Je voudrais dire simplement que entre la version initiale qui a été soumise et celle que nous remettrons le 25, il y a eu des ajustements relativement substantiels parce qu'on a écouté les gens. C'était l'objectif, mais arrêtez de me demander de concerter avant qu'on élabore un document. Enfin, on fait généralement un martyr et on concerte sur un martyr. Et ensuite, on le modifie. Donc, nous en sommes aujourd'hui à l'élaboration, on finit l'élaboration du modifier avant de reconsulter le public. Donc voilà, les associations, à mon avis, ont peut-être été insuffisamment prévenues, mais me faire le procès qu'elles ne l'ont pas été par paraît un peu lourd. Nous sommes ici, je suis là pour essayer de répondre, pour écouter. Je pense que j'aurai dans la table ronde prochaine et dans la conclusion l'occasion de donner un certain nombre de signaux.
Merci. Bon, on va se donner 10 minutes. Je lis peut-être les deux questions, non, on ne reprend plus la parole, hein. Même pour Roberto, plus de parole, c'est clair et net.
Je voulais pas.
Oui, ah non, mais j'ai eu une petite crainte, je me suis dit, il va me faire encore un mauvais tour. Alors, j'ai dans la boîte à malice, donc Gervais Brun, président de l'association Vive la Lannion, qui a déposé donc deux questions ou deux interrogations. La première, c'est n'est-il pas temps de mettre en place un observatoire des ouvrages sur l'axe Loire-Allier à Lannion, supervisé par le préfet coordinateur de bassin? Et entre parenthèses, il met mise en conformité et veille en cas d'incident compromettant la migration des saumons. Ça, c'était pour la première. La deuxième concerne la reproduction naturelle et il le dit, la sauvegarde du saumon ne passe-t-elle pas par des décisions courageuses avec notamment l'instauration de zones refuges sur certains cours d'eau comme la Lannion en favorisant la reproduction naturelle présente et elle seule. Voilà, c'était Hervé Brun et j'ai une dernière chose, mais là c'est pour le sourire, avant de partir 10 minutes en pause, donc c'était félicitations pour la qualité de la restauration. Et il faut entendre par ce mot restauration, non pas la restauration des populations, mais la restauration du colloque. Voilà.